À 8h29 maintenant, on va toujours parler d'histoire policière, cette fois avec la Sûreté du Québec, où la porte-parole Héloïse Cossette est en bout de ligne. On va revenir sur plusieurs éléments d'actualité. Bon matin, Mme Cossette.
Bonjour, M. Pelletier.
D'abord, un accident mortel dans les dernières heures du côté de Bécancourt. On sait peu de choses, si ce n'est que l'homme est décédé sur la route 132.
Oui, donc c'est autour de 2h30. Ce sont des citoyens qui nous ont appelés pour nous signaler la présence d'un homme inanimé sur le boulevard Bécancourt, sur la chaussée. Donc, les policiers se rendent sur place, constatent que l'homme est décédé. C'est un homme dans la cinquantaine. Et dans le fond, on a retrouvé son véhicule. Il aurait pris place à bord d'une automobile seule, fait une sortie de route suivie d'un capotage. Et il a été éjecté, donc on peut penser là, qu'il n'était pas attaché avec sa ceinture de sécurité. Il s'est retrouvé éjecté puis s'est retrouvé comme sur la chaussée comme ça. Donc, c'est les circonstances là, de niveau comment ça s'est fait, la collision qui a mené à son décès. Maintenant, ce que l'on demande aux gens qui ont circulé sur le boulevard Bécancourt,
oui.
Entre l'avenue des Flamands et la route La Prade, peut-être entre 1h30 et 2h30. Là, donc, il y a peut-être des gens qui ont été témoins soit de la collision ou qui sont passés juste après la collision. Donc, on demande à ces gens-là de contacter les policiers parce que leur témoignage pourrait nous amener un éclairage de plus là, sur les circonstances exactes de la collision ou peut-être qu'il y a des gens qui vont se souvenir être passés dans ces heures-là, avoir croisé un véhicule qui allait croche ou peu importe. Là. Mm-hmm. Donc, on est à la recherche de témoins dans ce dossier-là, principalement des conducteurs de camions lourds qui, de par la hauteur de leur véhicule, avaient peut-être une bonne visibilité. Puis, donc, entre 1h30 et 2h30, là, s'il y a des gens qui ont passé dans ce secteur-là, bien, on apprécierait qu'ils nous contactent.
Oui, parce que là, on tente de déterminer les circonstances, évidemment, de cette mort-là, mais outre le fait de recueillir des témoignages, est-il possible qu'il y ait davantage qu'une collision, qu'un accident dans cette histoire-là? C'est ce que je semble comprendre à la lumière de votre réponse.
Non, c'est vraiment un véhicule qui perd le contrôle,
okay.
Qui, une sortie de route régulière, capotage, un homme seul à bord. Nous, c'est sûr que dans l'enquête, au niveau des circonstances, la façon dont ça s'est fait, c'est comme ça.
Mm-hmm.
Et dans l'enquête, c'est sûr qu'on va s'intéresser aussi au parcours là, du conducteur, tu sais, c'est qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières heures,
ouais.
D'où est-ce qu'il arrivait, puis mais on est toujours en démarche là, d'ailleurs pour rejoindre ses proches.
OK. Autre dossier maintenant, celui de Guillaume Picotte. C'est un jeune homme de 20 ans qui a été accusé de complot pour meurtre il y a quelques années déjà. C'était dans le secteur du boulevard des Chenaux, dans le carrefour commercial qu'il y a là. Vous savez, il y a un secteur là, du Pétro-Canada. Il y a maintenant également une épicerie, une garderie dans ce secteur-là. Bref, dans ce coin-là, il y avait eu une tentative de meurtre de ce côté-là. Guillaume Picotte qui résidait dans un endroit où on tentait de le remettre sur le droit chemin, s'est échappé de là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Donc, il était dans un centre de réhabilitation de Joliette en vertu de sa libération conditionnelle. Donc, il se devait de rester à cet endroit-là, puis il a décidé de quitter l'endroit le 19 octobre dernier sans autorisation. Il n'est jamais revenu sur place depuis. Donc, cette semaine, les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui sont ici à Trois-Rivières, donc qui avaient traité le dossier à l'époque, ont été mis au fait de ça. Donc, on s'est tout de suite mis en mode recherche pour le retracer et ça implique de diffuser là l'avis de recherche concernant Guillaume Picotte, 20 ans, de Saint-Paulin. Il est recherché pour liberté illégale, donc on a diffusé sa photo, tout ça, les informations pour demander l'aide du public. Mais, donc, il pourrait se trouver autant, oui, en Mauricie, dans la Nadière, dans les Laurentides. C'est les principales régions où on le recherche.
Okay.
C'est possible qu'il se rende même ailleurs, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment présentement sa libération conditionnelle. Tout ça a été suspendu. Il y a un mandat d'arrestation qui a été émis contre lui. Donc, on est à sa recherche active. Fait que les gens ne se gênent pas. On le dit toujours, on aime mieux vérifier dans le doute. Là.
Mm-hmm.
Je pense que c'est lui. T'sais, faites le 911. On va envoyer un véhicule de police vérifié. Prenez pas de chance d'intervenir auprès de la personne
dans non, ouais, surtout
avec
pas.
Elle pour pas que ça s'envenime.
Mm-hmm.
Donc, Ben voilà, donc appelez dans le doute, on va se rendre faire la vérification.
OK. Juste pour être sûr que je comprends bien, Mme Cossette, ce qu'on nous dit, c'est qu'il s'est évadé, il a quitté, là, le 18 octobre, et ce n'est seulement que dans les derniers jours que les policiers l'ont su ou ils le savaient avant?
Ben, il a quitté l'endroit le 19 octobre.
Ouais.
Là, je n'ai pas les moments
okay.
où, exact, mais je sais que les enquêteurs ici à Trois-Rivières, c'est cette semaine là, qu'on s'est mis vraiment au niveau mode recherche, là, donc qu'on a appris là, que la libération conditionnelle était suspendue, qu'il y avait un mandat d'amener de valide. Donc là, oui, on peut procéder à le chercher puis à l'arrêter.
Peut-être que vous n'aurez pas la réponse là-dessus non plus. Là. Je ne veux pas vous prendre au piège, mais... Il n'y a pas plus de sécurité que ça à cet endroit-là. Comment ça fonctionne? Parce que, je veux dire, il fait pas « bon, ben ciao, je prends la porte puis je m'en vais non plus. »
Disons que c'est des processus complexes. Hein? La personne comme lui, reconnue coupable, ensuite il y a la sentence, ensuite il y a eu de l'emprisonnement, prison, pénitentiaire. Puis par la suite, le processus de libération conditionnelle n'est pas simple. Puis ça amène des fois les gens dans des centres de réhabilitation, maisons de transition ou
mm-hmm.
C'est vraiment un processus qui est indépendant complètement de nous. C'est vraiment au niveau de,
ouais.
de tout ce qui est libération conditionnelle qu'il faut vérifier c'est quoi les options là comme mais c'est sûr que là c'était terminé l'étape de détention vraiment dans une prison ou un pénitencier. Il était rendu dans un centre de réhabilitation qui est plus un milieu plus ouvert.
Mm-hmm.
Donc comme des maisons de thérapie, des maisons de
travail. Ouais, ouais, c'est ça.
Donc, sauf qu'il faut voir c'est, au niveau du processus, il s'est ramassé là à la suite de quelles étapes, là, mais il était rendu au stade de la libération conditionnelle.
OK.
Donc et... là, tout ça est terminé maintenant, c'est suspendu, puis quand il sera arrêté, on présume qu'il va retourner en détention.
Ouais. Et en terminant, Mme Cossette, peut-être rapidement, ça fait un an aujourd'hui que Mélissa Blais est disparue du côté de Louisville. On en est où maintenant dans les recherches?
Donc, le dossier est toujours enquêté par des enquêteurs basés ici à Trois-Rivières. Il y a des démarches d'enquête et puis qui sont encore initiées par les enquêteurs et c'est toujours actif là, au niveau de l'enquête dans ce dossier-là. Fait qu'on initie encore des choses, on reçoit des informations chaque semaine, on les vérifie puis tout ça. Fait que des fois c'est moins visible parce que c'est pas des recherches avec hélicoptère, plongeur, ce qu'on a fait durant la
ouais.
dernière année. Sauf qu'on continue à travailler le dossier. Puis si on en vient là, je vais donner un exemple, on retrouve, supposons, son sac à main dans un secteur. Bien là, c'est sûr qu'on redéploierait la structure de recherche terrestre. Puis
mm-hmm.
c'est pas exclu là. Dans ce dossier-là, on est conscient de la situation qu'on n'a pas retrouvé ni Mélissa Blais ni son véhicule. Qu'on est toujours à regarder qu'est-ce qu'on a de fait, est-ce qu'on doit refaire des choses différemment, retourner à des endroits, rencontrer à nouveau des témoins, est-ce qu'on a d'autres pistes à explorer. C'est certain qu'on a des questions sans réponse, puis c'est constamment dans nos pensées de regarder ce qui a été fait, puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Fait qu'on continue à avancer vers d'autres démarches, puis recueillir l'information, mais on n'a toujours pas localisé le véhicule où Mélissa Blais.
Héloïse Cossette de la Sûreté du Québec, merci beaucoup.
Bienvenue.
Bye-bye, Héloïse Cossette, donc porte-parole de la Sûreté du Québec, a fait le tour de différents dossiers avec nous ce matin, notamment cet accident mortel du côté de Bécancour, où on demande aux gens qui auraient peut-être été témoins de contacter justement la SQ pour tenter d'en savoir davantage sur les circonstances qui ont mené à cet accident-là. 8h37.